franceinter.fr.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre.
Bonjour.
Et bonjour à tous, et bonjour à tous les Jedi. L'épisode 7 de la série Star Wars sort mercredi prochain sur les écrans. Et même si le sujet vous indiffère, vous ne pourrez pas y échapper dans les journaux ce matin. Star Wars, la saga devenue phénomène, commente ainsi Sud-Ouest, qui précise que les fans sont prêts, de même que les spécialistes du merchandising. Un filon juteux que nous détaille l'union du jouet Star Wars au stylo Star Wars, sans oublier le coussin, les chips ou même le gel douche. Oui, un gel douche Star Wars qui peut-être vous transforme en maître Yoda. Cette sortie ciné est une véritable aubaine pour les commerçants, nous explique-t-on. Star Wars, un business galactique, s'amuse Le Quotidien, tandis que Le Télégramme évoque un succès intersidéral. Alors Patricia, je ne vous demanderai pas de me raconter l'histoire, ni même de me dire quel est votre personnage préféré.
Je n'y connais rien.
Vous
je propose quand même qu'on teste le gel douche sur Pierre Veille, vous êtes d'accord?
Pourquoi pas? Si vous voulez apprendre, du coup, sachez que les hebdos peuvent vous permettre de rattraper vos lacunes. Le Point nous présente les futures stars de Star Wars, notamment la jeune Daisy Ridley, jeune anglaise, qui a décroché son premier rôle dans le film le plus attendu de la galaxie. Son portrait est à lire également dans l'Obs, et si vous voulez comprendre qui sont les fans de la série, c'est-à-dire dans l'Express. Et puis dans Science et Vie, vous découvrirez que la science a désormais rattrapé la fiction. Longue interview du réalisateur J.J. Abrams dans le journal du dimanche. Comment expliquez-vous ce succès planétaire? Lui demande le journal. Par sa magie intrinsèque, répond-il, par sa force. Star Wars n'est pas qu'un film de science-fiction, dit-il. Sa fantaisie renferme une dimension spirituelle. Si le côté obscur menace à tout instant, il est question d'espoir et d'optimisme. Star Wars a débarqué dans une société en proie au cynisme, à la corruption, à la peur, de l'anéantissement, aux ténèbres donc. Actuellement, on vit une période folle entre les attentats de Paris et la fusillade qui vient de frapper San Bernardino aux États-Unis. D'autres menaces planent. Plus personne n'aime regarder le journal télévisé. Star Wars nous rappelle donc que se battre pour la justice et la liberté est possible et légitime. Qu'il ne faut pas baisser les bras. La force était-elle avec vous durant le tournage? Lui demande le journal du dimanche. Dans l'ensemble, répond-il, nous avions les munitions nécessaires pour esquiver les drames et nous avons survécu. La force était avec eux également, semble-t-il. Je veux parler des participants de la COP21 qui ont donc trouvé un accord hier à l'issue du sommet.
Et partout dans la presse revient le même mot, c'est le mot historique.
Oui, accord historique, le mot revient à la une de Presse Océan, Nice Matin, le Courrier de l'Ouest, le Courrier Picard, la Dépêche du Midi ou bien encore l'Indépendant. Du coup, j'ai ouvert le dictionnaire. Deux sens pour le mot historique. Premier sens qui a trait à l'histoire. Second sens qui mérite d'être retenu. Un événement marquant, un événement inoubliable, un événement qui fera date. Eh bien, si l'on en croit la presse ce matin, le terme historique est aujourd'hui approprié dans les deux sens. L'accord conclu hier à la COP21 mérite d'être retenu. Autrement dit, il fera certainement date et il entrera dans l'histoire. C'est en tout cas ce que confirme Laurent Fabius, le président de la COP21, dans le JDD. Le terme historique est souvent galvaudé, dit-il, mais en l'occurrence, il est justifié. Cette conférence de Paris écrit l'histoire et il est rare de vivre de tels instants, voir l'ensemble d'une salle se lever pour célébrer un succès que le monde attendait depuis si longtemps. C'est un moment fort. Le journal lui demande, alors à qui doit-on ce succès? Est-ce que c'est à François Hollande? Est-ce que c'est à vous-même? C'est un succès collectif, répond Laurent Fabius. Le président de la République s'est fortement mobilisé pour permettre le succès. Son engagement a été déterminant pour ma part. En tant que président de cette conférence, j'ai accompli depuis des mois un travail de préparation minutieux et permanent. Accord historique, donc. Mais il y a un mais, précise le journal du dimanche, car si sur le papier la planète est donc sauvée aujourd'hui, il reste maintenant à mettre les mesures en musique. Toute la presse nous explique que ce sera compliqué. Toute la presse est enthousiaste, mais toute la presse explique qu'il y a un mais à cet enthousiasme, car mettre les mesures en musique, ce n'est pas gagné. Il s'agit maintenant De politique nationale.
Eh oui, il est bien sûr question de politique nationale, précisément dans les journaux ce matin.
Avec le second cours des élections régionales ce dimanche, tout est encore possible. Au titre le JDD, rien n'est encore joué. Confirme la Provence qui précise que la clé du scrutin, ce sera la participation. Autrement dit, l'abstention, ainsi que l'explique Ouest-France avec un dessin du célèbre chat de Philippe Gueluc. Le chat en train de glisser un bulletin dans une urne et qui rappelle cette évidence. Celui qui ne vote pas n'a pas le droit de se plaindre des résultats. À vous de décider. Idée, lance pour sa part le Parisien, pour qui rarement l'issue d'un scrutin n'a été à ce point incertaine, même tonalité, à la une de la Voix du Nord qui souligne que chaque voix compte. Et le chroniqueur du journal Jean-Michel Bretonnier d'en appeler à la conscience écologique des électeurs. Il propose de faire doublement son devoir de citoyen aujourd'hui. Si cela vous est possible, allez voter à pied ou alors en vélo, écrit-il. Et dans le cas contraire, allez-y par tout autre moyen, même polluant. Mais allez-y. C'est d'ailleurs également l'appel de Jean-Marie Montali dans l'édito du Parisien. La politique n'intéresse plus les Français qui lui tournent le dos désenchantés par le cynisme et la démagogie. On peut, écrit-il, on peut continuer à s'en désoler en faisant ce que nous faisons de mieux, c'est-à-dire râler, spécificité française, mais on peut aussi, à l'inverse, décider de reprendre les choses en main en faisant cet acte tellement républicain. Allez voter parce que la démocratie est précieuse et parce qu'elle est fragile. Aujourd'hui, nous sommes donc le 13 décembre, jour d'élection régionale. Aujourd'hui, nous sommes le 13 décembre et ça fait un mois qu'ont eu lieu les attentats à Paris.
Et sur le site Slate, Frédéric, cette question dérangeante, où enterrer les auteurs des attentats du 13
décembre ? Question dérangeante, oui, qui peut même paraître indécente alors que la France continue de pleurer ses victimes. Mais Ariane Monzon tente néanmoins d'y répondre en s'appuyant sur l'analyse de la sociologue Riva Castorino, auteur d'un livre intitulé « Que faire des corps des djihadistes ? Que faire du corps d'Abdelhamid Abaoud, l'organisateur présumé des attentats à Paris ? Que faire du corps de sa cousine ? Et quelle sépulture pour Brahim Abdeslam, qui s'est fait exploser au comptoir Voltaire ? Contrairement à l'enterrement des guerriers tombés dans les combats classiques, explique la sociologue, celui des djihadistes représente une question fâcheuse et mal accueillie à la fois par les autorités publiques et plus encore par les familles des victimes. Mais un État ne peut refuser une sépulture à l'un de ses ressortissants, quand bien même il s'agirait d'un terroriste. Du reste, lorsqu'ils sont d'origine étrangère, ce n'est pas plus évident. Mohamed Merah était d'origine algérienne et Hamedi Coulibaly d'origine malienne, mais l'Algérie, comme le Mali, ont refusé d'accueillir leurs dépouilles. Ils ont donc été enterrés dans les villes où ils résidaient, de même que les frères Kouachi. Et sans doute en sera-t-il de même pour les auteurs français des attaques du mois dernier, dès lors qu'ils sont français. C'est le droit français qui s'applique, et même si leur lieu de sépulture n'est pas encore fixé, il se situera donc très certainement en France, pays qu'ils rejetaient pourtant, et auquel ils ont fait tant de mal. Sur E89, lire aussi le papier de Xavier Delaporte. Depuis le 13 novembre et les attentats qui ont touché Paris, combien de fois avons-nous entendu cette phrase, demande-t-il. Je ne connaissais personne parmi les morts, en revanche, il y avait des amis d'amis. Des amis d'amis, c'est tout près, ça signifie que nous avons des proches dans le deuil, qu'il faut les soutenir, que nous avons des récits de chagrin, d'enterrement, cela crée un effet de proximité très fort avec l'événement. Depuis le 13 novembre, dit-il, je me pose une question. Combien sommes-nous dans ce cas à avoir perdu des amis d'amis, des copains de relations, des copains des enfants ? Comment se fait-il que j'ai l'impression que son nombre est gigantesque ? Il a donc contacté un premier chercheur, qui est sociologue, directeur de recherche au CNRS, et qui s'est interrogé sur cette question, lui a conseillé un autre chercheur au CNRS, Camille Roth, qui travaille à l'interface entre les mathématiques et les sciences sociales sur la dynamique des réseaux. Et il a proposer une estimation. Avec 1000 précautions, Camille Roth a donné cette réponse. Combien de personnes sont-elles concernées ? Probablement aux alentours de 7 millions. Aux alentours de 7 millions de personnes connaîtraient quelqu'un qui a perdu quelqu'un lors des attentats. C'est énorme. 3 fois la population parisienne, les 2/3 de la population francilienne, plus de 1 Français sur 10.
Quelques informations plus légères pour finir.
Oui, Patricia, un braquage qui n'entrera sans doute pas dans l'histoire, excepté peut-être comme le pire casse du siècle. C'était hier matin dans le centre de Villeurbanne. 2 malfrats encagoulés qui menacent les employés d'un supermarché et qui les obligent à ouvrir le coffre-fort du magasin. Mais ce dernier ne contenait que des rouleaux de petites monnaies, des pièces de 1 et 2 centimes. Montant estimé 2-3 centaines d'euros, une information du Progrès. Un autre fait divers en manchette de l'Est éclair. Le chien marche sur la carabine posée par terre. Le coup part et blesse le chasseur. Conclusion, toujours éviter de laisser des armes à des chiens. Les footballeurs tricolores, très chanceux au tirage. Le tirage tirage au sort des premières rencontres de l'Euro 2016. Face à eux, les Bleus auront la Roumanie, la Suisse et l'Albanie. C'est l'un des groupes les plus faciles. Et pour l'équipe, il s'agit d'un tirage au sort sur mesure, un tirage en l'absence de Michel Platini, mais cérémonie réussie de la vie générale, y compris le dîner offert aux participants et concocté par le chef étoilé Joël Robuchon. J'ai voulu leur mettre Paris en bouteille, confie-t-il ce matin dans les colonnes du Parisien. Ravioles aux champignons de Paris servis avec une sauce berry, un choix de terroir, dit-il. Mais on a quand même enlevé la trop grande richesse calorique pour rendre le plat plus digeste. Et puis on parle aussi cuisine dans le journal du dimanche, une interview de Catherine Deneuve, qui raconte son plaisir à être derrière les fourneaux. Elle aussi d'ailleurs, elle aime les plats du terroir, pot-au-feu, blanquette, bœuf aux carottes et autres soufflés au fromage. Et au cinéma, lui demande le journal, avez-vous joué beaucoup de scènes de repas? Réponse de l'actrice, je fais un petit peu de cuisine dans certains films de Téchiné, des omelettes la plupart du temps. En revanche, je n'ai jamais réalisé le vrai cake d'amour que je préparais dans Peau d'âne. Vous vous rappelez la recette, non. Patricia?
On va peut-être pas faire toute la recette, vous voulez bien?
Ça y est,
c'était
vous l'avez.
C'était la
bonne journée.
De Frédéric Pommier.